Bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'histoire d'Épinal et l'histoire des Vosges au travers des fortifications qui entourent la cité spinalienne. Nous serons pour ces prochaines minutes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Traditionnellement, vous êtes notre invité pour cette série d'émissions qui se poursuit et nous avons eu l'occasion d'évoquer Séré de Rivière et les travaux qu'il a pu mener pour justement la conception des forts qui vont ensuite être construits à partir de 1876. Nous en étions arrivés au moment où Séré de Rivière vient donc sur le bassin spinalien pour effectuer ses constructions. Est-ce qu'on peut en rappeler le contexte ?
Séré de Rivière va être chargé par le gouvernement de concevoir de nouvelles fortifications ou de pouvoir moderniser d'autres fortifications dans un premier temps entre Dunkerque et Nice. Donc c'est un programme énorme. Hein, et qu'il ne va pas s'arrêter là, puisqu'on verra par la suite que Séré de Rivière va aussi moderniser des ouvrages dans les Pyrénées face à la frontière espagnole. N'oublions pas que la guerre de 70, je ne vais pas revenir là-dessus longuement, mais la guerre de 70, le prétexte de la guerre de 70, c'est le problème de la succession sur le trône espagnol, où c'était un prince de Hohenzollern qui était sollicité par les Espagnols pour monter sur le trône. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, en 1870, on allait reconstituer l'empire de Charles Quint. Donc avec un encerclement de la France, du sud vers l'est et vers le nord.
De la France.
Donc c'est à la suite de ça que la guerre a éclaté, la dépêche d'Ems, etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur ça. La guerre de 70. Mais donc on va moderniser malgré tout des fortifications face à l'Espagne. On peut s'étonner, mais il faut se rappeler de cette histoire. On est 3 ans après le fameux conflit avec l'Allemagne à propos de l'Espagne. Et puis, on va moderniser aussi des ouvrages le long de la côte atlantique, puisqu'il faut se souvenir aussi que nous ne sommes pas alliés avec l'Angleterre encore à l'époque, ça viendra plus tard avec l'entente cordiale, et que nous avons aussi à gérer les provinces unies, c'est-à-dire aujourd'hui les Pays-Bas, puisqu'on va entrer en conflit avec les Pays-Bas pendant le 19e siècle avec l'affaire de Belgique, puisque la Belgique est devenue indépendante, donc à la suite d'une scission de territoire avec les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels. Voilà, il faut replacer tout ça, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est tout le 19e siècle. Je rappelle souvent que la France du 19e siècle, entre 1815 et 1870, donc entre les guerres napoléoniennes et la malheureuse guerre de 70, va entrer dans 13 conflits différents, dont des conflits bien connus, la guerre de Crimée et la guerre d'Italie, qui donne son nom à certains boulevards parisiens, Magintin, Solferino, etc., etc.
Et, tout un contexte, non, mais c'est important.
En dehors de ça, on va aller guerroyer en Chine, en Cochinchine, au Paraguay, au Mexique, etc., etc.
Donc, voilà. On va loin alors qu'on a aussi des problèmes chez soi.
Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut replacer tout ça, pour comprendre la mentalité des gens, à la fois du citoyen, mais des hommes politiques et des militaires. En 1870, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas notre histoire du 21e siècle, mais c'est celle du 19e avec toutes ces pesanteurs. Donc, Séré de Rivière va se mettre au travail. On va faire des reconnaissances sur le terrain. On a d'ailleurs un certain nombre d'éléments intéressants. Par exemple, on a un général qui est le duc d'Aumale, qui est un fils de Louis-Philippe, et qui va faire des reconnaissances, en particulier dans les Vosges, et il raconte dans ses mémoires qu'il avait à certains moments, sur son cheval, de la neige jusqu'au poitrail du cheval, en faisant ses reconnaissances. Il faut se souvenir quand même des techniques de l'époque. On n'a pas de GPS, on n'a pas de satellite, on n'a pas de drone, etc.
Et on n'a pas de chasse-neige.
Alors la conception de Séré de Rivière, c'est une conception qui est très innovante, puisque lui, s'appuyant sur l'exemple de la place de Metz, place fermée, où s'est laissé enfermer Bazaine, il veut en fait des places fortes qui soient à la fois défensives et offensives. Défensives, ce sont des forts détachés qui se soutiennent mutuellement, toujours à une distance d'à peu près 1,5 km entre les ouvrages, et ils sont placés à des endroits stratégiques pour empêcher la pénétration de l'adversaire. Donc c'est toujours en face de grandes vallées, ou en face de routes importantes, ou en face des premières voies de chemin de fer, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est de l'époque du chemin de fer, et on construit des voies ferrées. D'ailleurs, l'une des supériorités de l'Allemagne en 1870, c'est d'avoir su beaucoup mieux que la France se servir de ces voies ferrées pour amener des renforts, approvisionner l'armée, etc. Et donc, on va donc placer ces ouvrages dans des endroits qui surveillent effectivement tout cela. Mais entre ces ouvrages, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de défense linéaire là-dessus, comme la conception précédente de Haxo. Hein. On va laisser un champ libre, on va mettre simplement des batteries annexes de ces forts, on va construire des redoutes et des abris d'infanterie, mais on ne ferme pas du tout la place. Donc voilà sa conception. Et c'est comme ça qu'il va commencer à faire 4 séries d'ouvrages, le Jura, hein, en se servant d'ailleurs d'un certain nombre d'ouvrages préexistants, un rideau fortifié Belfort-Épinal, ça c'est la Haute-Moselle, hein, les Vosges, avec la place forte de Belfort, qui avait déjà des ouvrages, puisque c'est comme ça qu'elle s'est défendue pendant la guerre de 70, mais Épinal, qui n'avait qu'une caserne, il n'y avait pas de fort. Et donc, entre Belfort et Épinal, les forts de la Haute-Moselle, donc en partant d'Épinal, ben, c'est le fort d'Arches, c'est le Parement à Miremont, c'est le fort de Rupt-sur-Moselle, c'est le fort du Ballon-Servance, c'est le fort de Giromagny, et on arrive à Belfort. Et puis au nord d'Épinal, on laisse un passage, la Trouée de Charmes. Et on reprend sur la Meuse, cette fois, la Haute-Meuse, on va reprendre un autre rideau fortifié, Toul-Verdun, avec des ouvrages sur ce qu'on appelle les Hauts-de-Meuse. Hein. Voilà, donc comme l'ouvrage de Troyon, Génicourt, etc., etc. Et puis, à nouveau une trouée entre Verdun et Montmédy. Et ensuite, on reprend à nouveau un rideau fortifié, le Nord, entre Montmédy et Lille. Voilà la conception en ensemble. Alors ensuite, il y aura effectivement des ouvrages dans les Alpes, jusqu'à Nice, etc., etc., mais on laissera ça de côté. Donc les travaux vont commencer assez rapidement, donc 74 pour Verdun, comme je l'ai dit, et puis Épinal, Toul, Belfort, c'est 1876. Les premiers ouvrages sont construits à ce moment-là, et Serre de Rivière va diriger ses travaux jusqu'en 1880. Il a 65 ans, date à laquelle il est évincé comme de la direction du génie au ministère de la Guerre. Bon, il y a eu une cabale, un complot de gens sans doute jaloux de son influence.
Sûrement, c'était souvent le cas à l'époque.
Mais on va continuer son programme jusqu'en 1885. Son successeur va continuer exactement ce qui est programmé. Donc un programme qui est énorme sur l'ensemble de la France, c'est environ, c'est, je crois de mémoire, 196 forts qui sont construits ou modernisés, hein, et des dizaines de batteries, de redoutes, etc., plus évidemment les casernes qui vont avec. C'est un énorme programme. Il faut se souvenir quand même que dans une ville comme Épinal, à l'époque, on a non seulement les constructions des voies ferrées, puisque la voie ferrée Nancy-Épinal, c'est 1857, la voie ferrée sur Remiremont, c'est 1866, etc., etc., et vers le sud, et puis la voie ferrée en direction de Neuchâteau, etc., etc. Et c'est ce moment-là. Et c'est ce moment où on construit aussi à Épinal des grandes casernes à partir des années 1880. Ben, il faut imaginer le chantier, parce que dans le même temps, on construit à Épinal aussi les manufactures, c'est-à-dire toutes les grandes usines de coton qui remplacent celles qui sont en Allemagne, maintenant en Alsace, hein, qui vont être construites. Donc, il faut imaginer ces gigantesques chantiers. Je rappelle souvent que la ville d'Épinal, en 1870, c'est moins de 10 000 habitants. En 1914, c'est 30 000 habitants, plus les militaires, bien sûr. Hein. Donc, on voit une ville comme Thaon, c'est un village d'un peu plus de 500 habitants en 1870. En 1914, c'est 8 000 habitants.
Oui, c'est un petit peu augmenté, on va dire.
Donc, alors, plus évidemment, la formation d'entreprises de travaux publics, hein, en particulier avec des Italiens. Hein, c'est les noms qu'on connaît encore aujourd'hui, hein. Medina, Peduzzi, Bigoni, etc., etc. Ben, c'est la naissance, c'est à ce moment-là. Hein, voilà. Et ceci pour toute la Lorraine, évidemment. Donc, 1885, ça va être une révolution dans la fortification, parce qu'on met en place, cette fois, de nouveaux explosifs, qu'on appelle les explosifs brisants, la mélinite en particulier, qui donne aux obus un pouvoir de destruction absolument énorme. N'oublions pas que jusque-là, les fortifications sont en maçonnerie. Alors certes, des maçonneries très épaisses, généralement au moins un mètre de maçonnerie, surmontées de plusieurs mètres de terre, hein, à certains endroits, mais ça ne suffit pas du tout pour que ce soit détruit par ces nouveaux explosifs, ces nouveaux obus. Et donc, il va falloir repenser complètement ces ouvrages, donc investir à nouveau beaucoup d'argent dans ces ouvrages. Et donc, on va faire du béton spécial. D'abord, le béton spécial, on l'appelle spécial parce que c'est le pourcentage, c'est un pourcentage très important de ciment au mètre cube. Hein. Et puis après, ça sera, à partir des années 1900, ça sera le béton armé. Hein. Voilà. Donc, on va changer complètement de conception, d'autant plus que l'armée de campagne s'est réorganisée. Donc, on a à nouveau des régiments d'infanterie, d'artillerie, de cavalerie, etc., opérationnels. On construit aussi une flotte très moderne, avant 1914, qui coûte d'ailleurs beaucoup plus cher que les forts. Hein. Les forts, serrés de rivière, les dépenses serrées de rivière, c'est environ 700 millions de francs or. À mettre en comparaison avec les 5 milliards de francs or que l'on doit à l'Allemagne.
Hein. Que l'on doit, oui.
Voilà. Donc, ce n'est pas énorme. C'est moins énorme que ce que coûtent des cuirassiers d'escadre, par exemple. Hein. Et donc... À partir de 1885, on va changer complètement de conception, c'est-à-dire qu'on va revenir à la conception de Nicolas Haxo, en fait, avec des places fermées. Alors, on va construire de nouvelles batteries, des batteries d'intervalle.
Au risque, permettez-moi, de se retrouver dans la situation que Serré de Rivière a voulu éviter.
Pas tout à fait, parce que c'est vrai que les régiments qui sont casernés dans une ville comme Épinal, ils ne sont pas faits pour rester derrière, hein. Il y a simplement un régiment d'infanterie, le 170e régiment d'infanterie, qui va être créé d'ailleurs à la veille de la Grande Guerre, hein, très tardivement. C'est un régiment à 4 bataillons, contrairement aux autres régiments d'infanterie qui n'ont que 3 bataillons. Donc 4 bataillons, c'est-à-dire 2500 hommes à peu près, qui vont être consacrés à la garnison des ouvrages. Et puis un régiment d'artillerie à pied, le 8e régiment d'artillerie à pied, qui est destiné à servir les canons des ouvrages, hein. Que ce soit les forts ou les batteries annexes ou intermédiaires. Donc, c'est un régiment d'ailleurs très particulier parce que c'est un régiment qui, en temps de paix, a environ 1200 hommes. C'est en fait des gens qui entretiennent, hein, simplement, hein, des ouvriers d'artillerie, etc. Mais qui gonflent à plus de 13 000 hommes en cas de guerre. Parce que là, il faut servir tous les canons. Hein. Et quand, dans une place forte comme Épinal en 1914, c'est un peu plus de 500 pièces d'artillerie qui sont dispersées tout autour de la place.
Effectivement, on comprend qu'il faudra des hommes pour pouvoir s'occuper de toute cette artillerie. Jacques Grasser, j'appelle, vous êtes agrégé d'histoire et vous êtes avec nous pour faire cette émission et présenter ces fortifications qui ont été construites donc au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et début 20e, pour être également réaménagées avec le temps. On va continuer à parler de ces hommes dans une prochaine émission et je vous dis pour cela à très bientôt.
À la prochaine.
Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, cette émission est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet. À très bientôt sur cette fréquence.